Bonjour et bienvenue en 2030 glorieuse. Je m'appelle Julien Vidal, je suis le fondateur du mouvement Ça commence par moi. À travers ce podcast, je pars à la rencontre des acteurs du monde de demain. Ils incarnent les utopies réalistes dont nous avons tant besoin. Ce sont des bâtisseurs, des idéalistes, des empêcheurs de tourner en rond, des personnes à l'écoute du vivant et d'eux-mêmes qui ont décidé de se mettre au service d'une cause qui les dépasse, celle de la création d'une société plus égalitaire, plus durable et plus heureuse. Ils sont des milliers en France à agir concrètement pour montrer que l'action est le meilleur remède contre le fatalisme et que, si nous agissons avec ambition et amour, la décennie des 2030 glorieuses est à portée de main. Bonne écoute. Bonjour Marie-Anne Guyenne.
Salut Julien.
Je suis très content de te recevoir dans le podcast 2030 Glorieuse, dans lequel je commence à prendre l'habitude maintenant de rencontrer celles et ceux qui sont les signaux faibles des mondes de demain. Et d'ailleurs, au passage, pour celles et ceux qui nous écoutent, j'en profite pour dire que ce podcast que vous écoutez gratuitement est libre et indépendant et il a besoin pour continuer à exister et à se développer de votre soutien. Donc à la fin de cette interview, n'hésitez pas à relayer le podcast à votre entourage, mais aussi laisser une bonne note sur votre application. Et si vous êtes sur Apple Podcasts, à laisser 5 étoiles. Voilà, c'est dit, merci. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour cet échange, pour parler de votre initiative, Antoine et toi, WeDressFair, qui est une boutique à Lyon, mais pas que. Donc tu as cofondé cette initiative il y a quelques années et tu vas nous en parler. Et nous allons aborder des sujets comme l'entrepreneuriat, l'éthique dans la mode, le greenwashing ou encore la déconsommation. Et pour commencer, Marie, est-ce que tu peux justement nous dire ce que c'est WeDressFair ?
Alors, WeDressFair, on se présente souvent comme un site, une boutique, une plateforme, un média qui essaye de démocratiser la mode éthique. Donc, on a plusieurs canaux, notamment du coup le premier qui a été un site marchand qui rassemble des marques de mode plus responsables qui produisent en se souciant des hommes et de l'environnement.
Et aussi une boutique, hein, c'est ça ?
Et aussi une boutique à Lyon, effectivement, qu'on a ouvert depuis un an. Qui est en bas des pentes de la Croix-Rousse, rue des Capucins, qui nous sert aussi du coup beaucoup pour vous présenter tous les produits, puis également pour organiser des conférences, rencontrer, discuter en fait de ce qu'est la mode éthique aujourd'hui.
Ouais, moi personnellement, je vois vraiment WeDressFair comme une sorte de phare dans le brouillard de la mode éthique où il y a beaucoup d'informations contradictoires et puis aussi de greenwashing à grands coups de milliards, mais on y reviendra tout à l'heure. Parce que, en fait, avant, je voulais évoquer avec toi ton parcours professionnel qui est particulièrement intéressant. 2030 Glorieuse, c'est vraiment un espace où on peut mettre en avant des métiers qui ont du sens parce que, en fait, ils sont encore trop peu connus, ces métiers. Et souvent, les gens, ils imaginent que quand ils doivent changer de métier, en fait, pour les mondes de demain, c'est soit être agriculteur, je caricature à peine, soit être consultant dans une grande entreprise pour accélérer la transformation écologique. Mais il y a plein de gens comme toi qui se font eux-mêmes leur métier. Toi, tu nous racontes un peu comment tu es arrivé à cofonder WeDressFair et comment tu décrirais ton métier actuellement ?
Pour moi, c'était pas du tout naturel d'être entrepreneur, mais vraiment pas. Je viens pas du tout de ce milieu-là. J'ai pas fait une école de commerce. Je connaissais rien en économie et j'y connais un peu aujourd'hui. Mais voilà, je découvre en fait aujourd'hui le système dans lequel on vit, le monde qui m'entoure. Et ça, réellement, parce que moi, depuis que je suis petite, je m'intéresse énormément à la biologie et à la médecine humaine. Et du coup, j'ai fait un parcours très rectiligne, en fait, dans ce milieu-là. Donc, classe préparatoire, master. Ensuite, j'ai été embauchée en recherche en cancérologie. J'ai fait que des stages en biologie, j'ai bossé dans un hôpital. Enfin, du coup, en fait, tout ce que j'ai fait allait dans ce sens-là. Et, Et quand je suis arrivée au poste qui devait être le poste qui me plaisait le plus, où du coup on me proposait une thèse du coup pour être chercheur en cancérologie, enfin devenir réellement chercheur, ben je me suis posé la question si c'était réellement ça que je voulais faire dans ma vie. D'autant plus qu'il y avait beaucoup de choses, beaucoup de signaux autour de moi qui me disaient que ben voilà, c'était peut-être pas exactement le monde que je m'étais fait en fait, comme enfin. Dans mon imaginaire, c'était pas exactement ce monde-là. La recherche, c'est quand même très compétitif. Voilà, il y a plein de choses derrière qui commençaient à me titiller, qui me disaient, mais attends, je suis pas sûre que ce soit exactement ta place. D'autant plus que je suis quelqu'un de très curieuse, qui a envie de faire beaucoup de choses. Et la recherche, en fait, on nous cantonne quand même beaucoup à un rôle. Et du coup, il faut avoir énormément de patience pour faire ce rôle pendant très longtemps. Et je crois que j'avais pas cette patience-là, moi, à ce moment-là. Et surtout qu'il y avait des choses droite à gauche, des copains qui commençaient à monter des choses. Du coup, il y avait aussi des signaux extérieurs qui m'appelaient à faire autre chose. Je me suis engagée dans une association qui s'appelle Le Carillon, qui s'appelle La Cloche maintenant, en tant que bénévole. Et du coup, ça m'a aussi ouvert sur des choses très réelles. La recherche, c'est un temps qui est extrêmement long, alors que quand on va dans la rue, quand on parle à des gens qui sont dans la rue, quand on a un impact direct, c'est réel et c'est tout de suite. Et ça, quand je faisais ça et quand je faisais ces missions de bénévolat, je me sentais réellement en fait vivante et pleinement là en fait à ce moment-là. Et du coup, je pense que j'avais besoin de ça. Et très naturellement, je me suis tournée vers un parcours d'entrepreneur qui s'appelle Ticket for Change. Et en fait, j'ai fait un MOOC, donc un cours en ligne de Ticket for Change. Et pour tout vous dire, en fait, le premier cours où j'ai vu un entrepreneur social, j'en ai eu des frissons, j'en ai eu des larmes aux yeux parce que ça me parlait réellement, en fait. C'était quelque chose de profond que je pense que j'avais et que je pouvais développer à ce moment-là. Et du coup, j'ai tout lâché, la recherche, etc. Et puis du coup, j'ai commencé à monter un projet dans le textile et sur du recyclage textile. Et c'est là où j'ai rencontré Antoine et où du coup, on a beaucoup, beaucoup discuté de We Dress Fair. Et j'ai rejoint l'équipe de We Dress Fair très naturellement à ce moment-là. Donc, c'est pas naturel pour moi d'être... Ça n'a pas été naturel d'être entrepreneur. C'était pas du tout ma vocation. C'était pas... j'avais pas... J'ai pas grandi avec ces images de grands entrepreneurs qu'on a aujourd'hui. Et du coup, je suis arrivée là-dedans un petit peu comme ça. Un petit peu, voilà, parce que je pense que ça m'appelait aussi. Mon père est entrepreneur, mon oncle aussi. Il y a quand même dans la famille un passé. Jamais je m'étais dit et jamais je me suis levée quand j'étais petite en me disant « je serai chef d'entreprise ». Jamais. Et du coup, c'est quelque chose qui est venu petit à petit.
Marie, c'est passionnant d'avoir ton parcours comme ça. Et surtout, en fait, ce que j'apprécie particulièrement dans ton honnêteté et la transparence que tu as sur ton évolution professionnelle, c'est que tu démystifies un petit peu le mythe de l'entrepreneur qu'on met trop souvent, je trouve, en avant, notamment dans l'entrepreneuriat social, les personnes qui, dès le plus jeune âge, avaient conscience ou ont eu un déclic très fort, qui se sont lancées, qui ont réussi à braver vents et marées et qui, aujourd'hui, ont une solution qui est la première pour radicalement changer, etc., etc. Il y a quand même ce discours qui, de temps en temps, est enthousiasmant parce qu'on doit utiliser les codes un peu, tu vois, de la société actuelle et donc c'est beaucoup la création de nouveaux héros. Et à la fois, souvent, ça les rend presque ces héros, inhumains ou impossibles à atteindre et donc à copier. Et il y a plein de gens, je pense, qui se disent « mais en fait, eux, ils sont extraordinaires, moi, j'y arriverai jamais. » Et alors qu'en fait, c'est pas du tout le cas. Il y a plein de problèmes aussi dans le milieu de l'entrepreneuriat social dans lequel toi, tu gravites. Il y a des problèmes de management, des problèmes de burn-out, des problèmes de finance aussi. Il y a plein de choses, quoi. Et donc... rendre humain ce milieu, c'est aussi un des objectifs de 2030 Glorieuse. Et en racontant à quel point tu as cheminé et que finalement tu arrives absolument pas à l'endroit où tu avais prévu et tout à fait à l'endroit où tu avais prévu en même temps, c'est passionnant et c'est hyper inspirant. Merci.
Avec plaisir. C'était vraiment... c'est quelque chose avec Antoine qu'on essaye de dire aussi à d'autres personnes, en fait, d'autres entrepreneurs qui essayent de venir nous voir et qui nous disent « je sais pas si je dois y aller ou pas ». C'est vraiment, en fait, c'est... Il y en a beaucoup et je pense que pour la plupart, c'est pas une vocation. On arrive là, à cet endroit-là, parce que on pense que c'est notre place à ce moment-là. Mais c'est pas quelque chose qu'on a rêvé, c'est pas quelque chose qui a été dans notre sang. Enfin, et voilà, je pense que les modèles qu'on a aujourd'hui des entrepreneurs, des grands chefs d'entreprise, des grands chefs d'entreprise des GAFA, par exemple, enfin, c'est pas du tout ça le monde réel dans lequel on gravite aujourd'hui. Et la plupart des gens qui ont le plus d'impact, c'est des gens qu'on ne voit pas, en fait. Ils sont là, il y a des bénévoles dans les assos, il y a des salariés dans des entreprises qui poussent énormément à faire des choses. Et pourtant, on ne les voit pas, ils ne sont pas au devant de la scène. Et voilà, donc nous, on essaye vraiment aussi de dire ça, en fait. C'est que chacun peut oser et chacun peut essayer au moins de faire à son échelle et de faire comme lui, bon lui semble, en fait, à ce moment-là.
Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi ton métier ?
Alors là, c'est une bonne question. Alors, mon métier, de façon très pragmatique, tous les jours, mon métier, c'est d'essayer de faire que cette entreprise, elle continue pour avoir un impact positif plus important encore. Donc, c'est chercher des talents, former des talents, essayer d'épanouir des personnes dans l'entreprise, écouter beaucoup tout le monde du coup dans cette entreprise là, essayer aussi de rétablir le pouvoir de force entre les grosses entreprises et les plus petites entreprises, mettre en lumière les marques qui font les choses bien, essayer aussi de faire de la pédagogie, de la sensibilisation sur des grandes questions aujourd'hui qui restent encore très compliquées à comprendre. Voilà, c'est un peu tout ça.
Ouais, j'ai presque l'impression qu'en fait, chez WeDressFair, même si effectivement le modèle économique fait que vous avez créé une boutique en ligne, etc., etc., mais si tu me demandais, moi, de décrire ton métier, Marie, je dirais que tu es lobbyiste en mode éthique, en fait.
On est militant, ça c'est sûr. On est militants et je pense que ça fait aussi notre valeur chez WeDressFair. On est tous des militants, plus ou moins activistes. Enfin, on est voilà, c'est on a réellement envie que les choses changent. Donc effectivement, ce que tu dis, c'est complètement vrai. On a créé aujourd'hui cette boutique en ligne, mais à côté, en fait, notre mission tous les jours, c'est réellement une mission d'éducation, de sensibilisation et aussi une mission de pouvoir de force, en fait, de faire grossir une force complémentaire, une force une deuxième force, en fait, une contrebalance de ces grosses entreprises du textile qui aujourd'hui sont la raison pour laquelle on en est là dans l'industrie textile.
Pour les personnes qui ne le savent pas encore, même si je trouve que le sujet s'est pas mal démocratisé ces dernières années, pourquoi la mode, c'est vraiment un lieu de tous ces combats-là ? Pourquoi c'est un secteur qui doit être absolument changé pour réussir à engager la transformation écologique, durable, solidaire de notre société?
Il y a une phrase que j'aime bien, c'est « la mode reflète le monde dans lequel on vit ». Et c'est réellement, enfin, c'est vraiment vrai, enfin, très très vrai en ce moment, c'est la mode, elle est complètement déréglée. Donc, sur tout ce qui est matières premières. Aujourd'hui, on a poussé des matières premières. 90% du coton aujourd'hui, c'est du coton OGM qui est produit à l'autre bout du monde avec énormément de pesticides qui demande de plus en plus d'eau et en plus de ça, donc il est censé être résistant aux pesticides et de plus en plus, il acquiert des mutations, donc on doit réintroduire des pesticides. Enfin, tout va dans le mauvais sens, on marche sur la tête et en plus de ça, donc il y a le côté écologique qui est énorme dans la mode, donc il y a les matières premières, mais il y a tous les processus de fabrication, de transformation, les teintures, etc. Et de l'autre côté, c'est une industrie aujourd'hui qui emploie énormément de monde, qui sont encore dans des conditions mais indignes, et des conditions de travail qui aujourd'hui sont absolument pas sécuritaires, durables, et qui emploie encore aussi, on a encore des chiffres d'emploi d'enfants dans des pays plus à risque. Donc la mode, c'est un concentré de tout ce qui ne va pas, ce qui ne marche pas dans le bon sens, si je peux dire ça comme ça. Mais du coup, c'était un très beau sujet aussi pour essayer de faire changer ces choses-là et d'essayer de rétablir les équilibres.
J'ai l'impression que la mode, particulièrement, mais en fait, on pourrait dire un peu ça d'autres secteurs, je pense notamment à celui de la finance sur lequel je m'implique beaucoup en ce moment, ça fait aussi partie de ces milieux où il y a besoin à nouveau de remettre de la transparence parce que, en fait, il y a un peu un abus de confiance qui est passé malgré nous entre les entreprises et les consommateurs qui se sont d'une certaine manière déresponsabilisés et qui laissent à toutes les entreprises le pouvoir de faire ce qu'elles veulent sans, je sais pas, sans avoir l'impression qu'elles peuvent vraiment y faire quelque chose. Et donc, on le sait sans le savoir à quel point ces conditions écologiques et notamment sociales sont
ça,
terribles.
Le vrai problème, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans la mode, on ne choisit plus. Qu'est-ce qui choisit aujourd'hui les conditions de fabrication dans lesquelles sont et produit son vêtement? Qui aujourd'hui sait réellement dans quelle usine a été produit son vêtement? Qui aujourd'hui peut me dire de quelle origine vient le coton? Enfin, du coup, la vraie problématique aujourd'hui, c'est que le consommateur n'a plus le choix. En fait, on n'a plus le choix. On est obligé de choisir des choses qui ont été choisies par des entreprises. Donc la transparence, c'est vraiment un vrai combat et c'est au centre de ce qu'on prône chez We Dress Fair. Donc nous, on travaille avec des entreprises qui sont transparentes et qui ont envie d'aller dans cette démarche-là depuis le début. Donc nous, on ne travaille pas du tout avec les entreprises qui sont en devenir, donc celles qui essayent de changer. Nous, on a vraiment à cœur de mettre en avant celles qui aujourd'hui font les choses le mieux et qui le disent et qui le montrent, mais qui malheureusement n'ont pas les moyens des géants de l'industrie textile et qui du coup restent beaucoup moins visibles par rapport à d'autres entreprises qui elles dépensent des millions en marketing et communication.
Oui, parce qu'en fait, dans ce milieu, c'est un peu David contre Goliath. Hein. On a du coup tout un tas de superstructures mondialisées qui emploient des centaines de milliers de personnes et qui vendent des milliards et des milliards d'euros de vêtements chaque année, avec aussi tous les gâchis qu'on connaît. Et la nécessité d'accélérer le rythme d'achat, de rendre les vêtements les plus obsolètes rapidement, que ce soit parce qu'ils sont mal fabriqués et qu'ils s'abîment très vite ou parce qu'en fait, ils se démodent en quelques mois. Et puis d'un autre côté, des personnes vraiment engagées qui ont créé des marques depuis plus ou moins longtemps et qui, elles, sont constamment en train de défricher, en train de réinventer des modèles beaucoup plus durables, beaucoup plus en circuit court aussi.
Oui, clairement. C'est David contre Goliath, c'est clairement ça. Et c'est vraiment le but de We Dress Fair au tout début, c'est... On s'est posé la question de faire différemment avec Antoine, de consommer différemment parce qu'on avait vraiment eu la sensation que notre achat avait un impact dans le bon ou dans le mauvais sens. Et du coup, dans la mode, on s'est rendu compte que les alternatives, elles existaient. Mais en fait, le problème, pourquoi aujourd'hui elles sont pas visibles, c'est qu'en fait, les marges qu'elles se font quand elles vendent leurs vêtements, ces petites marques qui font les choses bien, c'est qu'elles réinvestissent derrière dans l'humain, dans la matière première, dans de la recherche et développement, dans des tests en laboratoire, dans de l'innovation. Et du coup, forcément, elles le dépensent beaucoup moins en marketing et en communication. Donc, le fait de les rassembler sur une plateforme et de pouvoir en fait leur donner de la visibilité à chacune et de faire que la visibilité d'une engendre la visibilité d'une autre, etc., enfin, augmente. Du coup, on a vraiment voulu faire le contrepoids, enfin commencer à être un contrepoids. On est tout petit aujourd'hui, hein, on n'est vraiment rien du tout par rapport aux géants. Mais voilà, c'est une vraie volonté d'être l'autre côté de la balance, quoi, de tirer la balance de l'autre côté.
Et donc un contrepoids qui passe, si je résume un peu tes propos, par la nécessité de faire de la pédagogie sur le manque de transparence et les incohérences, pour le dire gentiment, du milieu de la mode actuelle, pour faire de la pédagogie et donner de la visibilité sur les acteurs qui, eux, sont vraiment engagés pour une mode éthique, consciente, etc., etc. Et pour terminer, il y a aussi un accompagnement de pédagogie à l'utilisation de nos vêtements pour finalement sortir du piège de la surconsommation et apprendre à mieux consommer et même à déconsommer.
Oui, oui. Nous, on a tout un volet média et en fait, c'est dans les deux missions de We Dress Fair, c'est proposer l'alternative et deuxièmement, c'est pédagogie et sensibilisation du consommateur. Pourquoi ? Parce que en fait, souvent, on dit j'ai pas envie de passer à l'action, enfin j'ai pas envie ou j'ai peur de passer à l'action parce qu'en fait j'y comprends rien. Je suis perdue, on me dit tout, et la mode c'est vraiment un milieu qui est extrêmement compliqué à comprendre, il y a plein de textiles différents, c'est pas très régulé en termes d'utilisation de vocabulaire. Donc éco-responsable chez une marque, ça peut vouloir dire complètement autre chose que éco-responsable chez une autre, comme le mot éthique, mode éthique aujourd'hui, ça veut rien, enfin c'est pas encadré, c'est pas légalement encadré, et du coup chacun l'utilise un petit peu comme il veut. Donc le fait d'avoir ce média, de pouvoir lancer en fait une partie où on s'exprime avec nos mots, on vulgarise sans trop vulgariser, parce qu'on veut pas non plus tomber dans des choses simplistes, on essaye d'expliquer à chacun en fait du vocabulaire, des grandes problématiques de l'industrie textile sans tomber dans quelque chose de trop simple.
Mais c'est justement, Marie, si tu me permets, je t'interromps, mais c'est là-dessus que j'ai vraiment envie de t'entendre, en fait. C'est pourquoi le contraire de la logique actuelle qui est de simplifier au maximum les propos et de vendre toujours plus, c'est quelque chose de pérenne pour une entreprise comme la vôtre. Pourquoi un sujet complexe, des articles, une pédagogie très nuancée et donc aussi du coup très longue et très difficile à s'approprier, tout en disant aux gens « venez chez nous et achetez moins », pourquoi en fait c'est un modèle économique pérenne pour vous ?
C'est comme ça qu'on doit consommer de la mode, pas comme ce qu'on consomme aujourd'hui. La consommation plaisir, c'est quelque chose qui a été ancré dans nos têtes et c'est pas quelque chose qui est durable. Donc nous, ce qu'on dit, c'est en fait, plus on est conscient, plus on va consommer de façon raisonnée, plus c'est réfléchi, plus les gens du coup vont garder leurs vêtements, vont les faire durer. Nous, on n'est pas du tout sur essayer de faire revenir les gens chez nous et racheter énormément. C'est pas du tout notre but. Notre but, c'est de toucher de plus en plus de personnes. Donc, c'est de pouvoir sensibiliser de plus en plus de monde. C'est élargir le cercle. On n'essaye pas du tout à ce que les gens viennent racheter chez nous et disent « j'ai acheté 15 paires de chaussures chez vous, j'ai acheté 15 vestes l'année dernière, j'ai acheté 15 t-shirts ». Ce n'est pas du tout notre but. Et je citerai le fondateur de Veja, Sébastien Kopp, qui disait à une conférence, il y a un mec qui adore les Veja, qui est venu le voir à la fin d'une conférence, qui a dit « j'aime tellement vos chaussures que j'en ai acheté 4 paires l'année dernière ». Il l'a regardé, il lui a dit « bah t'as rien compris ». Eh bien, c'est ça. Et WeDresser, c'est ça. Ce qu'on essaye de faire, c'est ça. C'est pas de dire, vous achetez 15 000 vêtements chez nous et en fait, on va perdurer. C'est de dire, vous avez compris. Si vous avez compris, élargissez votre cercle. Élargissez, en fait, au cercle d'après, etc. Et en fait, que chacun, notre but, et ce qu'on essaye de dire aussi, c'est, on croit pas en une croissance infinie et pas du tout chez WeDresser non plus. On s'arrêtera de croître le jour où on interrogera une personne dans la rue, n'importe quelle personne dans la rue, on lui dira est-ce que vous connaissez une alternative pour acheter de la mode plus éco-responsable, et que chaque personne nous dise une alternative. Mais que ce soit WeDresser ou autre, la seconde main, la réparation, la customisation, la location, n'importe quoi. En fait, nous, juste ce qu'on veut, c'est que on ait le choix. Et voilà, et WeDresser, c'est avoir le choix aujourd'hui de consommer différemment de la mode.
Merci Marie. On va partir maintenant très rapidement dans les utopies réalistes. Hein. Ensemble, on va voyager en 2030 glorieuse. Et à chaque fois, avant de vivre cette aventure ensemble, on termine la première partie par un cadeau que l'invité nous fait. Et tu arrives donc avec une fenêtre que la littérature t'a ouverte vers les mondes de demain. Qu'est-ce que tu vas nous lire, Marie ?
Alors, je vais lire un passage du Siècle Bleu. Donc Le Siècle Bleu, c'est un livre qui est écrit par Jean-Pierre Gouff. C'est un livre que j'ai lu cet été pendant les vacances. Et j'avoue que je l'ai dévoré parce que c'est une utopie comme on les aime bien, une histoire de militants, des gens qui ont envie de faire plus. Et en fait, Le Siècle Bleu, je trouve que ça ressemble pas mal à 2030 glorieuse. C'est l'avenir, en fait, le siècle d'espoir, la vision au long terme. Un siècle où en fait on ferait coexister des hommes, la terre, le vivant et puis lui, Jean-Pierre Gouff, il rajoute aussi le cosmos. Donc voilà, c'est un passage du Siècle Bleu.
<t'->
situations très graves, l'héroïsme individuel n'est parfois pas efficace et peut conduire à une mort inutile. Pour résister, il n'y a alors qu'une seule solution. Se grouper et faire front ensemble. C'est la stratégie du troupeau face au félin, du banc de poissons face aux prédateurs marins. Même s'il peut y avoir des pertes, le groupe demeure dans sa globalité. Unissez-vous par petits groupes et vous verrez que les choses changeront, sans violence nécessaire. Un banc de poissons n'est pas agressif, il est juste insaisissable. Ce siècle bleu devra être également l'âge de l'héroïsme ordinaire et celui de la résistance collective. Il faudra célébrer ces valeurs et aussi les inculquer aux enfants. Ils doivent savoir qu'ils sont vulnérables, certes, mais aussi qu'ils peuvent résister et faire changer les choses.
Pourquoi tu as voulu lire cette partie, Marie ?
Ben, j'aime bien aussi les analogies avec le monde vivant et le banc de poissons. J'aime vraiment cette métaphore. Enfin, c'est même pas une métaphore. Parce que je pense que ça donne des clés aussi, ça donne de l'espoir et des solutions en fait pour pas se sentir tout seul. Et essayer de faire changer les choses et faire front en fait par petits groupes. Donc c'est vrai que j'aime bien ce passage et je vous invite vraiment à lire Le Siècle Bleu. C'est une bouffée d'espoir et enfin c'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que j'ai adoré.
Qui s'inscrit dans un projet plus large mené par Jean-Pierre Gou, qui entend vraiment, à travers tous ses projets, faire retomber l'humanité amoureuse de la planète bleue, de notre vaisseau spatial qui est la Terre. Et il y a l'overview effect qui est ce que ressentent les astronautes quand ils parlent dans l'espace et qu'ils voient pour la première fois cette bille bleue perdue dans le vide immense et qui tout d'un coup se disent mais il faut qu'on protège absolument cette merveille. Et donc ça, on peut le ressentir à travers le projet One Home, qui est un site internet sur lequel on voit en fait les images de la NASA directement retransmises. Et c'est la planète qui tourne et c'est assez enivrant. Et donc dans le thriller écologique qu'est Siècle Bleu, l'idée c'est sur un contexte écologique, géopolitique, de montrer en fait voilà, à travers les récits et donc la puissance des récits que Jean-Pierre porte beaucoup, à quel point le soulèvement pour des futurs souhaitables, pour des mondes de demain qui chantent, est enthousiasmant. Et du coup, effectivement, moi aussi, j'ai lu Siècle Bleu, j'ai eu un tout petit peu de mal à me mettre au début dans le rythme que propose Jean-Pierre, et puis en fait, après, une fois qu'on a commencé, on ne peut plus s'arrêter.
il y a aussi le conte de Thomas Pesquet, qui est vraiment... Si vous voulez voir des photos de la Terre vue du ciel... Allez.
Oui, c'est vrai. Sur Instagram notamment, effectivement, il a fait un livre où il diffuse et encore les photos de la Terre et c'est magnifique. Tu as raison. On en profite. On va voyager encore plus loin que ce qu'a fait Thomas Pesquet en allant sur la Station Spatiale Internationale. On va voyager en 2030 glorieuse. De fait, on y est déjà. Ça y est, Marie, nous sommes dans 10 ans. Dans une société où nous avons réussi, contre toute attente, là où on nous promettait le chaos, l'opposition, l'individualisme, nous avons réussi à remettre le vivant au cœur de nos modes de vie, le bonheur, des valeurs fortes. On va discuter ensemble de à quoi ça ressemble exactement, de comment on a réussi à arriver là-bas, mais ça y est, on y est. On y est si bien que là, si je te demande de réouvrir les yeux dans cette bulle de 2030 glorieuse qu'on est en train de faire éclater ensemble, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, je vois un monde plus équilibré, avec peut-être moins de grandes villes, mais plus de voilà, une continuité, des gens qui sont heureux, des gens qui travaillent. Je vois plus de personnes dans la rue. Je vois beaucoup d'entraide, de la solidarité, des générations qui habitent ensemble, différentes générations. Je vois des entreprises qui sont responsables, qui produisent sans plus croire en fait à une croissance infinie. qui du coup partagent beaucoup et évitent les monopoles, justement. On essaye de mesurer de plus en plus pour éviter les monopoles. Je vois des gens épanouis, des familles épanouies, de l'équilibre.
Et dans le milieu qui te concernait il y a 10 ans, le milieu de la mode, le milieu textile, à quoi ça ressemble en 2030 glorieuse ?
Alors, les vêtements sont tous recyclables à l'infini, et du moins ils circulent beaucoup mieux. On produit beaucoup moins parce qu'en fait on en a beaucoup moins besoin. On fait beaucoup plus circuler les vêtements, donc de génération en génération, mais aussi de personne en personne. On répare, chacun sait réparer ses vêtements, chacun sait entretenir ses vêtements. On est plutôt dans une consommation raisonnée et moins dans une consommation plaisir. Les samedis après-midi ne ressemblent plus du tout aux samedis après-midi de 2020. Les samedis après-midi, c'est des balades, c'est des passions, de la musique, de l'art, etc. C'est plus du tout des samedis après-midi dans des centres commerciaux pour acheter sa dernière paire de chaussures. Voilà, c'est un monde... Et je le répète, c'est plus de monopole aussi dans la mode. Donc, beaucoup plus de petites entreprises à taille humaine, avec un temps réduit, enfin, une longueur réduite entre le consommateur et le producteur. Donc, on connaît presque notre producteur. On connaît presque le champ de chanvre qui a fait le t-shirt que je porte. Voilà. Dans la mode, c'est ça pour moi.
Et du coup, tu dis que c'est plus de la consommation plaisir. Et en fait, à la place, c'est de la consommation bonheur parce que les vêtements qu'on porte nous rendent vraiment heureux. Comme tu le dis, il y a de plus en plus des artisans à nouveau dans ce milieu. Et donc, il y a aussi beaucoup plus de diversité dans la mode. On arrête d'avoir des vêtements qui sont un peu trop standardisés et que tout le monde portait avant. Hein. On se retrouvait un peu toujours avec les mêmes pulls, avec les mêmes t-shirts, avec les mêmes pantalons, alors que là, aujourd'hui, on a l'impression que presque chaque vêtement est unique. Et surtout, il y a eu la propagation de la consigne, même pour les vêtements, si bien qu'aujourd'hui, quand un vêtement il est vraiment au bout du bout, on peut le ramener dans le magasin dans lequel on l'avait acheté pour que en fait, ce même magasin lui redonne une seconde vie, c'est ça hein ?
Exactement. Et cette consigne, elle est généralisée partout. Et du coup, que ce soit autant sur les t-shirts que sur les chaussures, enfin tout ce qui est produit textile, aujourd'hui est consigné. Et on peut le ramener même n'importe où, que ce soit dans des bornes, dans des magasins. Ils auront une seconde vie. Et tous les vêtements ont une seconde vie et sont recyclables, et j'insiste, sur place, ce qui n'était pas le cas en 2020. On recycle et on réutilise sur place ce qu'on a produit. Et ça, c'est génial. Ça a été une super invention, cette consigne.
Et il y a même beaucoup plus de reconditionnement presque hein, dans la mode. Avant, c'est vrai qu'on avait les friperies, donc on pouvait acheter des vêtements usés, mais pas usagés. Et aujourd'hui, on peut remettre en état les vêtements, les chaussures. Ce que faisait il y a 10 ans en arrière une marque comme Panafrica, par exemple, qui fait des chaussures et chez qui on pouvait ramener sa paire de baskets pour qu'en fait, il les nettoie, qu'il change 2-3 composantes, mais qu'en fait, il repropose à la vente à un prix moindre leur basket. Et ça, aujourd'hui, ça s'est complètement démocratisé.
Je dirais même que ça va plus loin aujourd'hui, puisque aujourd'hui, il n'y a plus de neuf et plus de seconde main. En fait, tout est de toute façon en circulation tout le temps. Donc, on considère quelque chose comme neuf, c'est de la seconde main, et de la seconde main, c'est neuf. En fait, tout est toujours réutilisé tout le temps, remis à neuf. Donc, en fait, il y a très peu de création de nouveaux produits. On les transforme, mais on ne remet pas quelque chose en plus sur le marché s'il n'y a pas un réel besoin ou s'il n'y a pas une augmentation de la démographie, par exemple.
Et ça, c'est aussi passé par un besoin en matières premières qui n'est plus passé par bah voilà, ces champs de coton, même de chanvre dont tu parlais, mais aussi par le fait de refaire du tri dans les boutiques, les penderies aussi des gens, chacun chez soi. Parce qu'en fait, on a tous et toutes dans nos placards de la matière première qui sommeille. Et donc, il y a eu cette contribution aussi, cette simplification de tout ce qu'on possédait pour remettre au pot commun de la matière première à retransformer.
Exactement. Alors, non sans mal, parce que ça a été très compliqué de recycler cette matière qui a déjà été produite et déjà mélangée. Mais on a moins de production de matières premières parce qu'on réutilise ce qu'on a déjà sur place, et surtout la matière première qui est produite, elle est produite transformée sur place. Donc le coton reste du coton qui est produit, s'il est produit en Inde, reste en Inde, du chanvre s'il est produit en Europe, reste en Europe. Voilà, on a revalorisé des chaînes et des filières textiles sur place et localement. Transformer sur place également.
Mais justement, tu réponds en partie, et j'aimerais t'entendre là-dessus, à toutes celles et ceux qui disent oui, mais si on n'achète plus chez les grandes marques que tout le monde connaît, ça veut dire autant d'emplois en moins à l'autre bout de la planète, chez des personnes qui sont déjà très pauvres. Donc finalement, on ne soutient pas l'économie mondiale et on ne soutient pas même l'économie à côté de chez soi. Pourquoi, en fait, déconsommer et mieux consommer, c'est une opportunité extraordinaire pour l'emploi, et comment ça s'est incarné concrètement en 2030 Glorieuse?
Il faut complètement transformer les emplois, en fait. C'est pas, on ne peut pas dire « je vais continuer à consommer parce que ça va détruire des emplois ». Il faut transformer la façon dans laquelle on a travaillé. Et quand on transforme, on crée des emplois de cette transformation. Du coup, We Dressfair, pendant 20 ans, pendant du coup les 10 ans là qui sont passés, a soutenu les entreprises à l'étranger qui étaient dans cette transformation-là, qui ont soutenu des emplois qui sont durables, des emplois qui sont valorisants, des emplois qui sont épanouissants pour les personnes qui travaillent là-bas. Et du coup, on a soutenu ces entreprises-là qui sont devenues la norme. Et aujourd'hui, en France, c'est la même chose. Quand on a soutenu les entreprises de la transformation, de la transition, on a soutenu des emplois qui sont plus durables et qui, du coup, ont créé d'autres emplois qui ont permis aussi de transformer, de mettre l'entreprise au service de l'humain et non l'humain au service de l'entreprise, et qui, du coup, petit à petit, en fait, sont devenus quelque chose qui a été voulu par chaque personne et qui du coup est devenu petit à petit aussi la norme.
Et il y a eu aussi une réorientation assez drastique des bénéfices, parce qu'en fait avant, une entreprise dans la mode, elle avait un énorme budget sur la communication, le marketing, et ça maintenant, vu qu'on est à une échelle plus locale, le bouche à oreille fait une grosse partie du boulot, et donc en fait cet argent à la base qui était généré et orienté vers très peu de personnes a pu là maintenant être utilisé non seulement pour mieux payer les gens qui sont à l'origine des produits, qui transforment, qui trie, qui recycle, etc., qui répare, mais aussi en fait à la réaffectation, à la réindustrialisation de nos territoires.
Hein. Et à la pédagogie, la sensibilisation, et à toujours cette volonté de montrer ce qui se passe derrière, de faire apprendre. Aujourd'hui, chaque personne aujourd'hui sait réparer son vêtement, et c'est quelque chose qui est passé aussi par l'investissement de ces entreprises pour faire apprendre à réparer ses vêtements et à les entretenir. Donc c'est un rééquilibrage aussi dans les entreprises différence de salaire entre les plus grands et les plus faibles salaires. Du coup, chaque personne est payée aussi à sa juste valeur, donc chaque personne a un rôle à jouer aussi dans l'entreprise qui est beaucoup plus responsabilisant et beaucoup plus épanouissant que d'être un salarié en bas de la chaîne. Du coup, chaque personne est beaucoup plus investie dans son travail, et en même temps, ce travail est perçu comme une source de bonheur et d'épanouissement personnel. Voilà.
Mais en fait, ces personnes, elles sont d'autant plus investies que, en fait, de plus en plus, elles ont été amenées à être entrepreneurs et entrepreneuses, parce que si on a de moins en moins de monopoles, si on a de moins en moins de concentration de la production de valeur En fait, on se retrouve avec tout un tas de néo-artisans de la fabrication à la collecte, à la transformation, à la réparation qui assurent un service de qualité à côté de chez eux, dans leur quartier, dans leur ville. Et donc, ça veut dire qu'en fait, on est un peu revenu à un modèle où beaucoup de personnes sont entrepreneurs et entrepreneuses de leur propre vie et de leur territoire, du coup.
Exactement. Et j'y rajouterais même qu'ils ne sont plus définis par un seul métier. Qui un jour savent réparer des vêtements, donc réparent des vêtements, l'autre jour vont aider pour collecter la matière première et la transformer, etc. Donc en fait, qui s'épanouissent aussi, font de la pédagogie, de la formation dans les écoles, etc., qui s'épanouissent aussi à être pluriel.
Et toi, Marie, en 2030 Glorieuse, tu continues à être pluriel ? Qu'est-ce que tu fais ?
Et eh ben, je fais plein de choses. Je fais plein de choses et je fais plein de choses aussi en dehors de la sphère de l'entreprise. Je m'implique de plus en plus aussi en politique. J'ai envie aussi de faire passer des messages que j'ai pu acquérir en fait dans mon expérience entrepreneuriale aussi dans le public. Pouvoir être cette balance et du coup pouvoir aussi essayer de former sur le fait d'avoir des contrebalances et d'être toujours sur essayer d'avoir une balance équilibrée. Donc, je m'implique plus en politique, à mon échelle locale, pas à l'échelle nationale, je pense. Je suis aussi toujours impliquée autant dans la pédagogie, la sensibilisation, donc je fais plus de formation. Je fais peut-être aussi plus de discours public et je m'implique toujours autant pour essayer de construire des nouvelles formes de management en entreprise, toujours en mettant l'épanouissement personnel au cœur de la boîte et non l'inverse. Voilà, je suis tout ça.
Dans ce que tu dis, effectivement, il y a la notion d'épanouissement au travail. Il y a 10 ans, on nous promettait à nouveau du bonheur dans les entreprises avec la création de postes un peu farfelus comme le Chief Happiness Officer et ce genre de choses. Parce qu'en fait, on voulait pas revoir vraiment le fond, mais la forme en mettant un baby-foot et 2 séminaires de yoga de temps en temps par-ci par-là. Qu'est-ce qui a fait qu'on reprenne vraiment, vraiment cette fois le sens dans notre travail et pourquoi c'est si important dans notre société ?
C'est même pas important, enfin c'est fondamental. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui ça va changer, ce qui fait qu'aujourd'hui ça a changé, c'est que l'humain et les personnes sont plus considérées pour ce qu'elles savent faire, mais sont considérées pour ce qu'elles savent être et pour ce qu'elles savent transmettre. Et du coup, on n'est plus sur de l'exploitation de talent, on est sur vraiment faire grandir ce talent, enfin l'épanouissement et le je sais pas si on peut dire le grandissement d'un talent, c'est essayer de toujours écouter et pousser en fait, faire pousser, c'est-à-dire mettre de l'eau sur une plante dans la direction qu'elle veut prendre et pas dans une direction qu'on veut lui faire prendre. Donc c'est écouter chacun, essayer de mettre les personnes à l'endroit où elles sont le mieux. Et les faire grandir à cet endroit-là.
Quand on revient en 2020, à l'époque actuelle, pour toutes les personnes qui nous ont écoutées, et j'aimerais que tu leur proposes 2 perches pour qu'elles se mettent en mouvement ou qu'elles accélèrent dans justement la construction de ces mondes de demain. Qu'est-ce que tu peux leur proposer, et d'une, pour démocratiser cette mode éthique ? Dans l'ambition qu'on a décrite ces dernières dizaines de minutes, non pas dans le greenwashing d'H&M et de sa campagne Conscious, par exemple. Et ensuite, comment on peut aussi s'autoriser à s'écouter et à s'épanouir dans son travail ? Quelles sont les deux perches que tu veux tendre aux personnes qui nous écoutent ?
La première chose, c'est se questionner. En fait, c'est se questionner sur c'est quoi mon rapport aujourd'hui aux vêtements. Et après, en fait, en découlera plein de choses. Et ça, c'est à chacun d'avoir son interprétation après de ce qu'il en pense. La deuxième chose, pour avoir du sens, du coup, remettre du sens dans son travail, tu parlais de mouvement. Et vraiment, je pense que moi, c'est ce qui m'a activée aussi, c'est s'entourer de personnes qui sont en mouvement. Des gens qui se questionnent, des gens qui changent de travail, des gens qui font du bénévolat à côté. Donc, rechercher du sens dans son travail, c'est non seulement être capable de se poser la question « est-ce que je suis au bon endroit ?» mais c'est être capable de sortir de son canapé et de regarder cette montagne en face et de lui dire « écoute, t'es bien trop grande pour moi aujourd'hui, mais je vais commencer à gravir juste la première marche. » Et puis peut-être que demain, je gravirai la deuxième marche, et puis peut-être qu'après-demain, je ferai marche arrière, mais j'aurai essayé en fait. Et le mouvement appelle le mouvement, et du coup, je pense vraiment que rien que se questionner sur sa place et où est-ce qu'on a envie d'être en fait dans son travail est vraiment essentiel.
Merci Marie.
De rien, merci Julien.
Ça y est, cet échange avec Marie vient de se terminer. J'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir discuter avec Marie, qui m'a touché avec son honnêteté et son souci de transparence tant sur sa démarche professionnelle que vous avez découverte et qui est longue et qui est tumultueuse et qui est complexe, mais qui montre qu'en fait, on peut vraiment réussir à trouver du sens dans sa carrière, dans son métier, à partir du moment où on ose se poser des questions, s'entourer de gens inspirants. Et vraiment, son témoignage avec la découverte de Ticket for Change, de l'entrepreneuriat, et à quel point ça lui a donné la chair de poule, même les larmes aux yeux, comme elle le dit, je trouve que c'est tellement inspirant et ça montre que si Marie y arrive, vraiment tout le monde peut y arriver. Parce qu'elle elle était quand même destinée au milieu de la recherche, ça n'a rien à voir, donc c'est un sacré grand écart. Et aujourd'hui, elle l'assume et elle l'exploite brillamment. Et la deuxième chose, c'est en fait la nécessité de pédagogie sur tous les milieux actuels et notamment ceux qui sont les plus climaticides dans leurs mauvaises pratiques. Je pense là, en l'occurrence, à l'exemple de la mode dont on a discuté avec Marie. Et pour moi, c'est assez révélateur des initiatives qui sont les plus ambitieuses dans leur démarche de transformation. En général, à partir du moment où une marque continue à utiliser un vocabulaire simpliste qui va vous faire penser que tout est facile, que tout marche bien et que ça y est, grâce à votre nouvel achat, tout est écolo, moi, en fait, ça me fait penser l'inverse et j'aurais tendance à partir en courant. Plus une marque va être honnête, va vous expliquer qu'elle a un objectif ambitieux vers lequel elle veut aller, mais qu'elle n'y est pas encore arrivée et qu'elle est en cours d'amélioration et que continuellement elle va chercher à progresser et qu'elle veut vous entraîner là-dedans, non seulement en nous transmettant les informations, mais aussi en nous demandant notre avis pour co-construire avec nous, en fait, qui sommes bien plus que les clients finaux, mais des décideurs potentiels. Alors là, pour moi, ça change tout et c'est ce que fait WeDressFaire. Donc n'hésitons pas à réutiliser cette grille de lecture avec d'autres milieux qui, là aussi, ont tendance à mettre plus en avant le discours que les actes. Merci d'avoir pris le temps de voyager en 2030 glorieuse avec nous. Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et abonnez-vous à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Moi, je vous dis à très vite pour découvrir ensemble d'autres utopies réalistes et je vous donne rendez-vous sur sacommencepartmoi.org pour construire ensemble un monde meilleur dès aujourd'hui. Salut !